Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, dans ce dernier cas, welcome, bienvenue, welcome on, tout ce genre de choses, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Et les petites images qui bougent aujourd'hui, eh bien, elles vont nous mener du côté de George Stevens, un réalisateur américain. Plus qu'estimable et qui a signé, sinon des chefs-d'œuvre en tout cas, des très grands films. De toute façon, qui suis-je pour distinguer les uns des autres? George, eh bien, il était né de Lander Steven et de Georgia Cooper, qui dirigeait une compagnie théâtrale itinérante. Donc c'était vraiment un enfant de la balle. Autant dire que dès l'âge de 5 ans, il était né en Californie le 18 décembre 1904. Dès l'âge de 5 ans, le petit George Steven était sur les planches, j'imagine, aux côtés de ses parents, et qu'il ne les quitta qu'en 1921 pour devenir assistant caméraman, c'est mieux, puis chef opérateur, c'est mieux aussi, et je vais y arriver, aux côtés d'Al Roach, ou plutôt dans les studios d'Al Roach, qui était notamment le producteur réalisateur des films de Laurel et Hardy, le duo comique des années 30. Et du coup, eh bien, c'est par ce biais que George Stevens passa à la réalisation. Il commença par réaliser quelques courts-métrages. Le gars avait vraiment suivi tout le chemin des réalisateurs américains de l'époque, et ma foi, il est plutôt bien bienvenu, commencer tout en bas pour bien connaître tous les métiers, toutes les techniques du cinéma. Et du coup, il faut croire que son apprentissage avait été des plus réussis, puisqu'en 1935, alors qu'il ne signait que son cinquième film, et encore, je pense que les précédents étaient des courts-métrages, eh bien, il fut nommé à l'Oscar du meilleur film pour la première et loin d'être pour la dernière fois, pour Alice Adams, une comédie des années 30, dans les rôles principaux de laquelle on retrouvait Catherine Hepburn et Fred McMurray. Et la consécration, eh bien, elle vint dès l'année suivante, puisqu'en 1936, George Stevens eut l'honneur et j'espère le plaisir de diriger Fred Astaire et Ginger Rogers, encore l'un des duos magiques de ces années 30 qui relevait de la Grande Dépression, pour un film musical, vous l'aviez deviné. Ça s'appelle Sur les ailes de la danse en français, ma foi c'est assez joli, en anglais c'est plus concis, ça s'appelle Swing Time, et on va évidemment écouter une chanson extraite de ce film, tournée en 1936. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître, mais je vous dis que c'est un grand classique de chez classique du musical américain, Sur les ailes de la danse, dans 24 notes secondes.
A fun romance with no kisses, a fun romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fun romance, you won't nestle. A fun romance, you won't wrestle. I've never mussed the crease in your blue serge pants. I never had the chance. This is a fine romance. A fine romance, my good fellow. You take romance, I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults, and all the morals. You're just as hard to land as the Ile de France. I never get the chance. This is a fine romance.
A fine romance with no kisses, a fine romance, my friend. This is, true love should have the thrills that a healthy crime has. We we don't have half the thrills that the march of time has. A fine romance with no clinches. A fine romance with no pinches. You never give the orchids ice in a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance.
Alors, sans la danse, c'est très joli, mais peut-être un peu moins évocateur. Un extrait de la bande originale de Swing Time sur les ailes de la danse, c'était bien évidemment Ginger Rogers et Fred Astaire qui chantaient tout en dansant. Ces gens-là savaient tout faire. Et Fred Astaire, il avait commencé tout petit avec sa sœur Adèle sur les scènes. Et il faut quand même évoquer aussi, en plus de George Stevens, ce réalisateur du film, notre héros du jour, le producteur Pandro S. Berman, qui produisit tous les films, ou pratiquement tous les films de Fred Astaire et Ginger Rogers, et qui fut donc pour beaucoup dans le côté mythique de leur couple. Et puis, ça s'appelle Sur les ailes de la danse, donc comment ne pas évoquer le chorégraphe Hermès Pan, qui, dans les films de Fred Astaire, eh bien, se chargeait de tout l'aspect, je dirais, des autres que Fred Astaire et Ginger Rogers. Fred Astaire, qui était un danseur plus que confirmé, se chargeant quant à lui d'inventer ses propres chorégraphies, y compris avec Ginger Rogers. La grâce, on l'a ou pas, et évidemment, ces gens-là, Fred Astaire et Ginger Rogers, l'avaient tout à fait. Swing Time, c'est vraiment l'un des petits bijoux de la comédie musicale américaine, du musical, c'est mieux, américain de ces années 30, comme le sera l'année suivante, toujours sous la direction de George Stevens, deux mois Damsel en détresse, Damsel in Distress, dans lequel, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas Ginger Rogers. Du coup, avec Mariage Incognito tourné en 1938, on aurait pu penser que George Stevens était définitivement un cinéaste de comédie et de musicals, mais il prouva dès l'année suivante qu'il pouvait aussi s'illustrer dans d'autres genres, et en l'espèce le film d'aventure coloniale. Alors, je reconnais que le film d'aventure coloniale, c'est un truc qui a quand même beaucoup, beaucoup vieilli. Après, effectivement, on vibre un peu moins aux exploits des soldats de l'Empire britannique quelque part en Inde, mais ma foi, c'était le cas de Gunga Din, donc un film tourné en 1939, dans les rôles principaux duquel on trouvait Cary Grant, Victor McLagan et Douglas Fairbanks Jr., qui est loin d'avoir eu la carrière de son père au muet. Il y avait même John Fontaine aussi dans le rôle de la fille, puisque même dans les films coloniaux, il fallait des filles. Donc c'était l'évocation d'après un poème de Rudyard Kipling, dont on sait qu'il fut un grand fervent de l'Empire britannique, en plus d'être l'auteur du merveilleux Livre de la Jungle et de sa suite, si mal ensuite traité par Walt Disney. Bref, relisez le Livre de la Jungle, ne le voyez pas. Et en tout cas, eh bien, d'après Rudyard Kipling, Charles MacArthur et Ben Edge, qui étaient des grands scénaristes de l'époque, conçurent un film d'un patriotisme aujourd'hui un peu douteux. La musique du film, elle était signée d'Alfred Newman, elle est à l'aune du reste, et on va en écouter un extrait, Gunga Din, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Bah, vous aurez deviné, il y a le générique de début et puis le générique de fin quand la colonne repart pour chasser les méchants indiens. Ben oui, à l'époque c'était un peu plus contrasté. Un extrait de la bande originale signée de Alfred Newman de Gungadin, un film de George Stevens tourné en 1939. Alors, le film colonial des films coloniaux, c'est plutôt Les Trois Lanciers du Bengale d'Henry Hathaway, tourné 3 ou 4 ans avant avec Gary Cooper, si je me souviens bien. Mais enfin, Gungadin, c'est quand même un film qui fit l'objet de plusieurs remakes et puis surtout d'un détournement. Et quand j'écoutais les petits flutios, là, ça me le rappelait irrésistiblement. Dans la partie de Blake Edwards, pour ceux et celles qui l'ont vu, où Peter Sellers interprète un figurant complètement idiot, et dans le tournage d'un film qui est apparemment un remake de Gungadin, eh bien, on le voit mourir avec son clairon, mais mourir plusieurs fois comme dans un opéra, c'est-à-dire qu'il est frappé de balles, mais il continue à jouer du clairon parce que voilà, c'est sa seule occasion d'être à l'écran. C'est absolument irrésistible. C'est probablement tout ce qui restera de Gungadin de nos jours. George Stevens, eh bien, lui poursuivit une carrière alors en contraste entre les films d'aventure et les comédies. C'est notamment lui qui eut l'honneur en 1942 de diriger pour la première fois, elle fut suivie de bien d'autres, Catherine Hepburn et Spencer Tracy dans un même film qui s'appelait La femme de l'année en 1942. Et puis, pour revenir à un registre plus sérieux, pendant la Seconde Guerre mondiale, George Stevens se trouva à la tête d'une unité de l'US Army Signal Corps, c'est-à-dire en fait les caméramans de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on voit notamment des images, et on les voit très souvent, de la libération, entre guillemets, libération du camp de concentration de Dachau et du nid d'aigle de Berchtesgaden où Hitler avait installé son QG, eh bien une partie de ces images ont été filmées par George Stevens et ses opérateurs qui étaient donc sur place, c'est pas trop de le dire, au moment où l'histoire se faisait, ou en tout cas était en train de se faire. Et donc, ils ont filmé tout ça. Et ma foi, eh bien, pour ça aussi, George Stevens devra être félicité. Ensuite, eh bien, après la guerre, d'une certaine manière, les affaires reprirent. Et après un film que je ne connais pas, j'avoue, Tendresse, tourné en 1948, eh bien, George Stevens retrouva un gros succès avec Une place au soleil, A Place in the Sun, pour une fois le titre français, le titre anglais, Kif Kif, dans les rôles principaux duquel on retrouvait en amoureux transi à la scène, apparemment, comme derrière la caméra, Montgomery Clift et Elizabeth Taylor. À leur côté, il y avait Shelley Winters et quelques autres. La musique de ce film, elle était signée Franz Waxman. Je dirais quelques mots du film, mais on va écouter d'abord un extrait de la musique. C'est comme ça, Une place au soleil dans 24 notes secondes. Un bien court extrait de la bande originale d'Une place au soleil, musique de Franz Waxman, réalisation de George Stevens, tournée en 1951. Une place au soleil, eh bien, c'est d'abord un roman intitulé An American Tragedy, en anglais, un roman de Theodore Dreiser, dont en 1931, rien moins que S.M. Eisenstein, Sergei Mikhailovich Eisenstein, avait tenté l'adaptation dans les studios américains, mais Eisenstein et studio américain des années 30, ça ne pouvait pas le faire, donc ça ne s'était pas fait, et Eisenstein était parti avec perte et fracas. Ça n'avait pas empêché quand même une partie de son travail d'être récupéré par Joseph von Sternberg, encore un immigré venu d'Europe, qui en fit une première version parlante, ma foi, de belle tenue. C'est un pas évidemment un des grands Sternberg avec Marlène, mais en tout cas c'est un très beau film un peu méconnu. Et en 1951, eh bien, George Stevens reprit la chose et le film obtint une nomination à l'Oscar. Il n'obtint pas l'Oscar aux dépens d'un Américain à Paris, de Vincente Minnelli. Et comme je l'ai dit, pour Montgomery Clift et pour Elizabeth Taylor, eh bien, ce fut le début d'une histoire d'amour d'autant plus tourmentée qu'il n'est pas certain que les amours de Montgomery Clift se tournassent, ah, ça fait pas joli, mais en même temps c'est français, vraiment vers les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ensuite, eh bien, ils se retrouvèrent dans L'Arbre de vie, puis dans Soudain l'été dernier, avant que, au sens presque littéral du terme, Monty Clift commence à s'auto-détruire et à finir une carrière bien lamentable. On va rester, et c'est plus sûr, avec George Stevens, qui tourna en 1953 un western très réputé. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi, mais en anglais, ça s'appelle Shane, du nom du personnage principal, et en français, ça s'appelle L'Homme des Vallées Perdues. C'est joli aussi. Bon, en tout cas, c'est un western très considéré dans le top 10 pour certains. Et en 1956, eh bien, il retrouva une adaptation de roman, en l'espèce celle d'un roman d'Edna Ferber qui s'appelait Géant, et qui est une évocation, eh bien, de la naissance du pétrole au Texas, ou plus exactement de la naissance du boom pétrolier au Texas, dans les rôles principaux duquel on retrouvait Elizabeth Taylor encore, Rock Hudson et évidemment James Dean, dont ce fut l'un des trois seuls films, sauf erreur de ma part. On écoute un extrait de cette bande originale, elle est signée de Dimitri Tiomkin. Je ne vous l'aurais pas dit que vous l'auriez peut-être reconnu dans 24 notes secondes. Ses caractéristiques pomp and circumstance, comme dirait Sir Elgar, de Dimitri Tiomkin pour un extrait de la bande originale de Géant, un film de George Stevens pour lequel celui-ci obtint l'Oscar du meilleur réalisateur. Et j'ai oublié de préciser, en disant que le film n'avait pas obtenu l'Oscar, que ça avait été le cas de George Stevens pour Une place au soleil, ce qui veut dire qu'en moins de 2 ans, eh bien, George Stevens obtint 2 fois l'Oscar du meilleur réalisateur. Ma foi, c'est assez rare pour le signaler. Le tournage du film se termina le 22 septembre 1955, il sortit après, bien sûr, et c'est le 30 septembre et j'ai besoin de le préciser, que James Dean se tua dans un accident de voiture, donc moins d'une semaine après. Il n'avait travaillé que 15 mois à Hollywood, il avait quand même réussi à y tourner 3 films. La Fureur de Vivre, qui était sorti l'année précédente et qui avait fait qu'il avait obtenu le rôle principal de Géant, et À l'Est d'Éden d'Enya Kazan, qui sortira après Géant, mais ma foi, 3 films, et j'ai besoin là encore de le préciser, cela suffit pour créer un mythe qui dure encore, le mythe James Dean. Serait-il mort à 90 ans, que sans doute il n'aurait pas connu la même destinée, ajoute le cynique. Et on va bientôt se quitter aussi pour ce qui concerne George Stevens. Après Géant, eh bien, on vit la plus grande histoire jamais contée en 1965, qui était, comme vous l'avez sans doute deviné, une évocation de la vie du Christ, une grosse superproduction, mais qui était peut-être un peu en décalage par rapport à la grande vague du peplum américain des années 60, Ben-Hur, Covadis et autres, qui ne connut pas un très grand succès, même si d'aucuns considèrent que c'est un des films les plus fidèles à l'écriture et à la parole des évangiles sur le sujet. Et puis, George Stevens nous aura quittés le 8 mars 1975 à Lancaster, en Californie. Il a eu un fils, George Stevens Jr., ça va pas être facile à porter, mais bon, qui fut quant à lui le prestigieux directeur de le directeur du prestigieux American Film Institute, un institut de conservation des films, et ô combien utile. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale du Journal d'Anne Frank, un film tourné en 1959 par George Stevens, évidemment adapté du Journal d'Anne Frank proprement dit, mais aussi de sa transposition au théâtre. Le rôle d'Anne Frank était tenu par une inconnue et qui l'est resté, Millie Perkins, et puis quelques autres acteurs un peu plus confirmés. La musique, elle était signée à nouveau d'Alfred Newman. Ce sera notre conclusion sur George Stevens, bon serviteur du cinéma américain. Le tout dans 24 secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.